Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Le Planif. Au menu de votre magazine audio dédié à la saine planification financière, fiscalité, économie et investissement. Nous rejoignons le planificateur financier Antoine Chaume en Californie entre deux sessions de formation. Il prend le temps de nous expliquer les conséquences du budget Freeland sur les propriétaires de multilogements et investisseurs boursiers qui se retrouvent avec des augmentations d'impôts sur le gain en capital. À ce sujet, à une époque pas si lointaine, des centaines de milliers d'actionnaires de Nortel se retenaient de ne pas vendre leur titre chouchou de peur de déclencher des impôts. Isabelle Junot et sa capsule Origine retracent l'histoire de l'implosion de ce fleuron canadien des télécoms. Quant à l'économiste Francis Gosselin, il explique dans quelle mesure l'inflation s'apaise presque partout dans le monde et pourquoi nous avons de bonnes raisons d'être optimistes quant aux perspectives économiques de baisse prochaine des taux directeurs. Enfin, notre question du beau-frère provient de Charles de Lavaltrie. Mon beau-frère a déjà fait faillite et maintenant il est en mission contre les dettes. Il tente de nous faire la leçon sur toutes les sortes de prêts qui sont tous nocifs, selon lui. Existe-t-il de bonnes dettes? On va le savoir. Le balado Le Planif débute à l'instant.
L'histoire de Nortel, autrefois l'un des plus grands fabricants mondiaux d'équipements de télécommunications, est marquée par l'ascension fulgurante et l'effondrement spectaculaire de l'entreprise. Fondée en 1895 sous le nom de Norton Electric and Manufacturing Company, Nortel était à l'origine une filiale de la Bell Telephone Company du Canada, aujourd'hui Bell Canada. Elle a rapidement grandi pour devenir une entreprise leader dans le secteur des télécommunications, employant des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Nortel a connu une croissance explosive grâce à l'essor de l'Internet et à la demande croissante de technologies de communication. Son action a atteint des sommets historiques et Nortel représentait à un moment donné près d'un tiers de la capitalisation boursière totale de la Bourse de Toronto. Toutefois, cette période faste a été de courte durée, car l'entreprise a été confrontée à une série de problèmes financiers et opérationnels qui ont finalement conduit à son implosion. L'un des éléments clés de l'effondrement de Nortel a été la bulle Internet, qui a éclaté au début des années 2000. Lorsque la bulle a éclaté, la demande de matériel de télécommunication a chuté brutalement, laissant Nortel avec des stocks importants et une capacité de production excédentaire. Parallèlement, des rumeurs de pratiques comptables douteuses ont commencé à émerger, ce qui a nui à la réputation de l'entreprise et a fait chuter le cours de son action. En 2004, Nortel a été contrainte de revoir ses états financiers en raison d'irrégularités comptables. Cela a conduit à une série d'enquêtes et de procès et plusieurs dirigeants de l'entreprise ont été licenciés, dont le PDG Frank Dunn. L'un des aspects les plus marquants de cette affaire est l'anecdote concernant la découverte de 35 millions de dollars canadiens dans un compte bancaire de Nortel dont personne ne semblait connaître l'origine. Malgré les efforts de redressement, Nortel n'a pas réussi à se remettre de ses problèmes. En 2009, l'entreprise s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites et a commencé à vendre ses actifs pour rembourser ses dettes. Cette implosion a non seulement laissé des milliers de personnes sans emploi, mais a également représenté un coup dur pour l'économie canadienne et le secteur des télécommunications en général. L'implosion de Nortel sert d'avertissement aux autres entreprises sur les dangers de la croissance rapide et non maîtrisée, ainsi que sur l'importance d'une gouvernance d'entreprise solide.
Ne perdez plus de temps à fouiller chaque matin dans l'actualité pour trouver des nouvelles qui méritent votre attention. Commencez par lire l'infolettre InfoBref. Elle résume en 5 minutes les 10 nouvelles à connaître pour commencer votre journée. Essayez cette infolettre gratuite en vous inscrivant à infobref.com.
Le balado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
Ça fait toujours drôle de dire ça. On rejoint notre prochain intervenant en direct de la Californie. C'est le cas, Antoine? T'es là?
C'est le cas, Fabien. Aujourd'hui, on est à la présentation de PIMCO. Donc, on profite du beau temps californien, puis en même temps, on se forme pour l'industrie.
C'est bon. Est-ce que tu fais du surf aujourd'hui?
Malheureusement, non. Écoute, j'ai entendu dire qu'il faisait plus beau à Montréal présentement qu'en Californie. C'est un peu triste à dire et un peu contre-intuitif, mais c'est le cas aujourd'hui.
Ouais, ben on va surfer quand même. On va surfer sur les mauvaises nouvelles ensemble. On va surfer sur la prolongation du budget Freeland où on a appris que le taux d'inclusion du gain en capital allait passer à 66.75. Ça, c'est pour les particuliers qui ont du gain en capital qui excède 250 000. Mais pour les compagnies, là, c'est immédiat et ça concerne même le plus petit gain en capital. Qu'est-ce que ça t'a sonné, toi, comme cloche?
Écoute, ça a clairement sonné plusieurs cloches et surtout le téléphone ne dérougit pas depuis une semaine à peu près. Ce que je peux te mentionner, Fabien, d'entrée de jeu, c'est quand on regarde une situation d'un particulier ou d'une entreprise qui a du gain en capital latent, donc du gain en capital qui a été accumulé à travers les dernières années, ça peut être une bonne stratégie que de reporter son gain en capital. Par contre, la réalité, c'est qu'à partir du 25 juin 2024, il y a peut-être des actions à prendre. Puis c'est là, justement, la teneur de nos discussions au courant des derniers quelques jours. C'est est-ce que je dois prendre action proactivement, contacter justement mon comptable, mon fiscaliste ou mon planificateur financier dans le but de pouvoir remanier peut-être un peu mes affaires personnelles.
On commence à en savoir un peu plus. Donc, 250 000, c'est pas si extraordinaire que ça, en tout cas pour l'immobilier, duplex, triplex. Si la personne a l'intention de vendre à court, moyen terme, je pense que là, ça devient peut-être un petit peu plus évident, hein?
C'est sûr. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de quelqu'un qui est millionnaire auparavant, ça frappait l'imaginaire clairement. Maintenant, si on prend un pas de recul, on regarde un peu les gens autour de nous. Quelqu'un qui a acheté une propriété, un parent ou quelqu'un qui a un peu plus d'âge et d'ancienneté, qui a acheté une propriété, par exemple, dans Rosemont ou sur le plateau, dans un grand centre. À Montréal, par exemple, on peut voir une transaction qui s'est faite dans les quelques centaines de milliers de dollars, par exemple, un 2, 3, 4, 500 000. La réalité, c'est qu'un triplex maintenant sur le plateau, j'en vois 1,5, 1,8, 2 millions. Donc, les valeurs ont vraiment explosé au travers des dernières années. Puis, surtout, depuis la COVID, on a vu une augmentation significative des valeurs immobilières, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui aurait, par exemple, acheté une propriété à 500 000 $ et que la valeur maintenant est rendue à 1 million, pour la partie qui est imposable, donc qui n'est pas une résidence principale, cette partie-là devient imposable dans les mains de la personne lorsqu'il y aura disposition. Après ça, la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment ça vaut la peine de vendre aujourd'hui ou de se presser à faire une transaction aujourd'hui pour payer de l'impôt aujourd'hui? Alors que le taux d'inclusion est plus bas par rapport à une situation B où est-ce qu'on pourrait reporter dans le temps cette vente-là. Donc, c'est une question qu'il faut se poser. Puis après ça, il faut se pencher sur nos calculateurs Excel et nos calculatrices puis voir la suite.
Mais c'est toujours aussi selon nos plans. Si on a besoin de cet argent-là pour partir en autre projet, mais l'argent qui s'accumule, du gain en capital qui grossit avec le temps, un facteur que bien des gens négligent, c'est le rendement cumulatif à long terme qui, lui, lorsqu'on laisse l'argent tranquille, fait l'effet boule de neige.
Exactement. Puis on observe justement ce type de stratégie-là d'un point de vue des investissements, notamment avec ce qu'on appelle la classe corporative qui se retrouve dans des fonds mutuels ou des fonds négociés en bourse, où est-ce qu'essentiellement, on laisse l'argent s'accumuler et se multiplier en quelque sorte avec les années sans toutefois cristalliser le gain en capital. Puis il y a eu un article intéressant par David Trung, un confrère qui est sorti dans Finance et Investissement il y a quelques jours. Puis selon son analyse, en fait, si on a une perspective de garder les actifs plus que 4 à 11 ans selon certaines situations, ça vaut pas la peine en fait de nécessairement cristalliser le gain en capital tout de suite parce que en quelque sorte, c'est des fois un vaut mieux un que deux tu l'auras, mais parfois vaut mieux dire aujourd'hui, j'ai des gains en capitaux qui sont latents, vaut mieux ne pas payer l'impôt aujourd'hui, quitte à payer un peu plus tard, parce que pendant toutes ces années-là, j'aurai plus de sous qui vont pouvoir justement profiter de l'effet composé de celui-ci.
Oui, tu as parlé des fonds d'investissement, des mandats de gestion privée en catégories fiscalement avantageuses. Ils sont rares, mais il y en a. Il y en a même qui investissent dans les obligations, le revenu fixe, et transforment donc les revenus en intérêts, en dividendes de sources étrangères, en gains en capital reporté. Et là, je veux t'entendre là-dessus, sur ce mot-là, parce qu'il ne faut pas confondre gains en capital non réalisé avec gains en capital imposable maintenant. C'est, je pense, là-dessus, il y a des gens qui ont besoin de se faire guider, là.
Exactement. Puis Fabien, c'est un élément qui est super important de comprendre. C'est que oui, le taux d'inclusion pour le gain en capital va venir changer à partir du 25 juin 2024. Par contre, la réalité, c'est que quand on se structure de façon optimale, on peut en fait générer beaucoup de gains en capital qui ne sera pas réalisé avant le moment où est-ce qu'on veut décaisser. Donc un peu au même titre que lorsqu'on met de l'argent dans le REER, c'est de l'argent qui va s'accumuler en exonéré d'impôts à travers les années, puis éventuellement on va venir décaisser et c'est à ce moment-là qu'on va payer de l'impôt. Il y a un peu le même principe qui peut s'installer justement avec ce type de stratégie-là. Puis nous, on le voit dans notre pratique, c'est hautement avantageux, puis d'autant plus dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont élevés pour les portefeuilles obligataires, ça fait toute la différence, Fabien. Un taux de rendement à 5 % d'une obligation dans un compte non enregistré, si la personne est au taux marginal, disons de 50 % pour fin de la discussion, mais ça implique que tu as la moitié de l'intérêt qui s'en va au gouvernement, tandis que quand tu es dans une classe de catégorie, tu te retrouverais en fait potentiellement à ne même pas payer d'impôt sur ces distributions-là à travers le temps, et tu vas payer de l'impôt seulement quand tu génères le gain en capital qui s'est accumulé, ce qui veut dire que à ce moment-là, ce serait potentiellement 66 % d'inclusion sur le gain, mais c'est beaucoup plus avantageux que de laisser de l'argent chaque année sur la table puis l'envoyer tout de suite au gouvernement.
Mais je pense que pour les entreprises, il y a quelque chose qui mérite une réflexion très rapide puis qui mérite aussi une prise de décision, puisque le taux d'inclusion, là, il frappe l'entreprise immédiatement. Et il y a des gens qui devront décider si finalement ils continuent de faire de l'accumulation à ce rythme dans l'entreprise ou encore carrément se verser des sommes qui seront peut-être imposables, mais dans une certaine mesure peut-être moins.
Exactement. Puis après, il y a toujours une planification fiscale où est-ce qu'on va cumuler les sommes au niveau corporatif, mais également au niveau personnel pour pouvoir faire des calculs puis voir si ça vaut la peine. Il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'on est un particulier qui détient des actions dans une société privée, on a un certain contrôle sur notre rémunération et donc on peut clairement structurer une approche où est-ce que, par exemple, si on a de l'argent dans notre compagnie de gestion, puis qu'on se retrouve à avoir des REER inutilisés, par exemple, ou de l'espace de contribution fiscalement avantageux au niveau personnel, il peut y avoir des stratégies super intéressantes, justement, de cristalliser peut-être un peu de gains aujourd'hui, mais éventuellement en profiter aussi au niveau personnel via ces véhicules fiscalement avantageux.
Oui, il y en a certains. Je comprends que c'est complexe pour monsieur, madame, tout le monde de comprendre ces concepts-là, mais c'est très important de se renseigner parce que des petites différences qui sont des fois de quelques points de pourcentage ou de structure d'investissement peuvent quand même entraîner des pertes. En fait, c'est de l'impôt à 13, 14, 15 000 par année supérieur à ce qu'on devrait payer en utilisant quelques stratégies. Et de ton côté, est-ce que tu entends parler des gens d'affaires qui se mettent à douter de l'efficacité d'avoir une compagnie de gestion?
On commence à le voir. C'est sûr qu'il y a un élément où est-ce que les règles ont été dévoilées, mais il y a encore un peu de peaufinage qui va être fait. Une chose est claire, des gens qui ont une structure de compagnie alors qu'ils n'ont pas nécessairement une activité opérante avec de multiples employés. Donc, on vise principalement les professionnels de la santé, on vise des comptables qui seraient en pratique solo ou des professionnels, des avocats également. Ça remet peut-être légèrement en doute l'efficacité d'avoir une corporation. Par contre, je réitère que c'est super important de s'asseoir avec son professionnel puis de regarder les chiffres justement en fonction de sa situation individuelle. Puis un petit élément qui est quand même cocasse et intéressant, Fabien, que je voulais partager aujourd'hui, j'ai fouillé pour voir à quel moment dans l'histoire au Canada on a eu un taux d'inclusion aussi élevé, soit 2/3 de taux d'inclusion. Puis je vous rassure, il y a même eu un moment entre 1990 et 1999 où le taux d'inclusion était à 75%, Fabien. Donc, on est quand même encore chanceux.
Ben, mes cheveux gris s'en souviennent. Hein. Je me souviens de cette époque-là. Ça a baissé à 66 3/4, ensuite à 50%, puis c'est revenu à 66 3/4. Mais tu sais quoi? ce genre d'imposition-là, c'est le fruit des décisions des hommes, des politiciens. Et le politicien qui a mis ça en branle, ça se peut bien qu'il soit remis en question très bientôt avec des prochaines élections.
Oui, ça c'est sûr. Puis je dirais que de façon générale, il ne faut pas prendre une décision uniquement sur la fiscalité. Maintenant, j'entends de plus en plus les gens dans notre entourage, des personnes d'affaires qui sont très mécontents là, en quelque sorte de cette nouvelle politique. Puis je le comprends. Par contre, il y a quand même l'envers de la médaille, c'est que ça crée certaines opportunités. Puis j'ai noté deux éléments où est-ce que un taux d'inclusion plus élevé peut être avantageux. Quelqu'un qui aurait beaucoup de gains à capital dans des compagnies cotées en bourse, donc dans son portefeuille non enregistré, et puis que cette personne-là vise de faire un don éventuellement à des œuvres caritatives. Il y a des stratégies fiscales où est-ce qu'on peut prendre en fait des actions cotées en bourse qui ont un gros gain en capital, et puis en donnant à une œuvre caritative, ça nous crée en fait une disposition pour fin de la loi de don de charité. L'augmentation du taux d'inclusion va venir favoriser ce type de stratégie-là. D'accord? La deuxième stratégie qui est intéressante, c'est pour des gens qui ont des pertes cumulées, des pertes en capital antérieures, où est-ce que les pertes en capital étaient à 50% utilisables avec un taux d'inclusion de 50%. Maintenant, dans le futur, ces pertes-là vont pouvoir être utilisées contre le taux d'inclusion de 66%. Donc, il y a un gain aussi qui se fait là. Bon, c'est mineur, mais il faut quand même savoir que ça peut créer toute situation, il y a deux côtés à la médaille, puis certains défis peuvent quand même créer des opportunités de l'autre côté.
Ouais, en début de conversation, Antoine, tu as parlé de gens qui avaient une maison, qui ont acheté de l'immobilier il y a de ça une dizaine d'années, qui aujourd'hui se retrouvent avec un gros gain. Mais j'ai pu faire aussi des évaluations avec ceux qui avaient investi, par exemple, dans le marché boursier. Pour ce qui est des actions américaines, la dernière décennie, c'est une moyenne d'à peu près 16% par année. Alors, placer 1 million il y a 10 ans, on se retrouve aujourd'hui avec 4,4 millions. Et ça, c'est sûr que c'est un gain formidable, un gain en capital. Finalement, il y a des décisions à se prendre pour ceux, justement, qui avaient fait des investissements tant immobiliers qu'en valeur mobilière. Définitivement, on a besoin de conseils plus que jamais.
C'est sûr. Puis je reviens sur le fait que s'équiper d'une équipe qui est solide, une équipe multidisciplinaire qui est en mesure d'accompagner à travers ces différentes décisions-là, c'est extrêmement important. On le sait, mon but n'est pas de ressortir des statistiques qui ont déjà été utilisées à maintes reprises, mais la réalité, c'est que l'accompagnement d'un professionnel de la finance fait en sorte qu'on va accumuler en moyenne 2,3 jusqu'à 4 fois plus d'actifs financiers à travers les années sur une période de 15 ans ou plus. Donc, la réalité, c'est que plus aujourd'hui que jamais, c'est extrêmement important justement d'être astucieux dans ces stratégies puis de le pouvoir voir veiller au grain, quoi.
Merci pour ces éclaircissements, Antoine Chaume, et ça fait drôle de dire ça, en direct de Californie.
Merci Fabien, ça me fait plaisir.
Salut, à bientôt.
Salut.
Le balado, le planif. Pour mieux comprendre l'économie.
Francis Gosselin, économiste. Bonjour Francis.
Salut Fabien.
Dans l'économie, ben on peut dire que dans les dernières années, je pense que c'est un sujet qui venait souvent. J'imagine dans le temps des fêtes, on a parlé en masse.
Pas juste dans le temps des fêtes, je veux dire. J'ai été très en demande dans les médias, un peu partout. Puis pas qu'il n'y a pas toujours des sujets économiques, mais on dirait que depuis la pandémie, là, c'est devenu vraiment le sujet là, au sommet des priorités des Québécois, des Canadiens, un peu partout dans le monde.
Mais je me demande, Francis, si l'économie, on dirait que des événements majeurs se sont accélérés parce qu'il me semble qu'avant, ça s'étendait sur plusieurs années, mais là, on passe de quasi-récession et toutes sortes de mouvements dramatiques.
La thèse de l'accélération, on pourra en rediscuter, mais pour moi, ce qui est surtout marquant des dernières années, c'est l'imprévisibilité de ce qu'on a vécu, autant la dimension sanitaire que la dimension économique, ouais. L'inflation que même les banques centrales n'avaient pas anticipé, mm-hmm. Que les situations géopolitiques qui ont eu un impact assez majeur sur le Canada puis sur l'économie mondiale. Donc, c'est selon différents paramètres, il y a des choses qui s'accélèrent, mais il y a des choses qui sont plutôt stables. Mais l'imprévisibilité de ces variations-là, elle rend le sujet, je pense, plus intéressant, puis la demande en économiste, pour bien dire sûr. Ça comme ça, plus grande.
Et dans l'économie, on a aussi la valeur des monnaies, des devises à l'international. Et je veux te parler du dollar américain, parce qu'on entend des histoires, il y en a qui ont des groupes sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, où on part une théorie du fait que le dollar américain va s'effondrer. Faut acheter de l'or ou autre chose parce que le dollar est en danger, étant donné que Brésil, Russie, Inde, Chine, ils s'allient ensemble pour contrecarrer la puissance du dollar américain.
C'est une théorie, on va dire ça comme ça. Plusieurs choses là-dedans. Bien, la première chose, c'est que les États-Unis continuent d'avoir une croissance économique extraordinaire. Puis ça, bien, évidemment, ça pose l'économie américaine toujours un peu en référentiel pour le reste du monde. Fait que je pense que sur cet aspect-là, ça reste quelque chose d'assez attractif. Puis donc, la demande en dollars, forcément, est encore présente. Le taux directeur américain reste élevé. Puis là, tu sais, au début de l'année, on parlait de 6 baisses, puis 3 baisses, puis 2 baisses. Puis là, je ne veux pas faire de prédiction, mais ce n'est pas totalement exclu qu'il y aurait une hausse du taux d'intérêt vu l'inflation là, qui est quand même assez élevée. Fait que pour moi, c'est un autre facteur qui milite en faveur d'un prix du dollar US important. La dernière chose, cette idée d'une attaque concertée du BRIC contre le dollar US, on peut les prendre un par un si tu veux, mais tu sais, le Brésil, honnêtement, ne sont pas dans une situation de faire des attaques contre qui que ce soit. Là, c'est déjà un peu le bordel. La Russie sont même exclus des marchés, des changes largement. L'Inde, ça va correctement, puis ça reste une forte économie. Puis la Chine, évidemment, ils ne sont pas dans une position. Même M. Xi Jinping était aux États-Unis là, il y a quelques semaines pour un peu courtiser les entreprises puis attirer des capitaux. Ben, c'est ça. Fait que je ne vois pas que la Chine soit en train. Mais, tous ces pays-là rêvent de faire tomber la monnaie américaine, mais est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce qu'ils ont la stabilité économique?
On va regarder le dollar. Ouais. Si on le regarde justement sous forme graphique, on a la position depuis 1976 avec l'indice selon la force des autres monnaies et ça tiraille. Mais là, à 104 et des poussières, je pense pas que le dollar est faible.
Non, pas faible, puis surtout qui est, comme on le voit sur le tableau, assez stable depuis pas tout à fait une décennie, là, mais je veux dire, ça a beaucoup moins fluctué qu'historiquement. Donc, c'est pas comme si on observait. Puis c'est ça que je te dis tantôt quand je parlais, il y a des éléments qui s'accélèrent, mais la monnaie américaine, drôlement, c'est un des rares trucs qui reste fiable relativement dans cette économie un petit peu imprévisible, incertaine. Donc, pour moi, je suis pas un adhérent de la théorie du complot, assurément.
D'accord. L'inflation dans le monde, c'est un beau tableau. Charlie Bilello, je vous recommande, vous pouvez suivre ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais ici, les données récentes, et ce qui frappe, c'est que c'est pas égal, en fait, c'est pas nivelé dans une couleur, ce n'est pas vert partout, c'est-à-dire que l'inflation diminue, ou rouge, mais il y a vraiment alternance. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui différencie donc les économies de ces pays?
Ben, je pense que là, j'ai pas toutes les lignes une par une, là. On n'aura pas le temps de toute façon, mais tu sais, je pense que de manière générale, il faut quand même prendre ça avec un peu un grain de sel. Actuellement, l'inflation a été haute dans pas mal de pays, en Amérique du Nord, en Europe.
Ouais.
Elle est sous contrôle, on pourrait dire. Là. Oui, il y a certains pays où ça réaugmente, aux États-Unis, au Canada récemment, mais tu sais, on parle d'un dixième de point. Là, on n'est plus dans. Je pense pas qu'on va remonter à 8% là, de sitôt. Mm-hmm. Les banques centrales ont agi tardivement, mais elles ont agi avec force, avec détermination. Fait qu'actuellement, ce qu'on observe, c'est plus une stabilité, même s'il y a des petites hausses et des petites baisses du taux d'inflation. Puis après, il y a toutes sortes de particularités régionales là, ou par pays. On voit que le Canada et les États-Unis ne sont pas tout à fait sur la même trajectoire en matière de croissance macroéconomique. Puis c'est sûr que de la croissance, ça engendre de l'inflation. Fait que, comme on voit les chiffres aux États-Unis, que l'économie, comme si de rien n'était, crée de l'emploi, crée de la richesse. Le Canada, on est plus dans une période, on pourrait dire, de stagnation. Donc ça risque de nous avantager sur le strict plan de l'inflation, même si au final, les Canadiens s'enrichissent pas. Là, ce qui est comme
dans le tableau qu'on a vu et qu'on voit maintenant encore, on voit tous les pays, de la Thaïlande jusqu'à la Russie, je dirais, c'est en bas de 7.
Ouais.
Donc, l'inflation diminue dans bien des pays, mais il y a des exceptions. La Turquie, 67 % d'augmentation. Venezuela, 85 et l'Argentine, 276. Comment ça, ces pays-là, ils sont pris à l'inflation à tel niveau?
Écoute, j'ai un peu perdu le fil sur le Venezuela, fait que si tu te permets, je vais me mettre sur la glace, mais la Turquie, évidemment, c'est deux cas où t'as des régimes politiques un peu particuliers. Là. C'est pas de l'inflation là, par hasard. Là. Donc, la Turquie, évidemment, il y avait cette croyance, là, puis je sais pas si c'était une croyance ou si c'était du populisme, mais que si on baissait les taux d'intérêt, ça allait faire baisser l'inflation. Là, puis le président disait ça sur toutes les tribunes, ce qui est évidemment unique, bon mot. C'est pas du tout le cas. Et donc, là, récemment, la Banque centrale a réaugmenté les taux. Puis je pense qu'il y a aussi un petit peu de tension là, politique en Turquie. Là. Les élections municipales récemment ont montré là, qu'il y avait un peu une force de l'opposition qui est en train de se raviver.
La population est jeune aussi. Hein?
Effectivement. Donc, si éventuellement, il pouvait y avoir plus de stabilité politique puis un petit peu un débat, là, tout du moins sur le point de vue économique, entre experts, bien éventuellement, on pourrait ramener ça sous contrôle. L'Argentine, c'est une autre histoire, là, tu connais certainement, mais ça fait des décennies que c'est comme ça. Le peso, évidemment, s'effondre de manière continue, en fait, depuis ce temps-là. Les gouvernements successifs ont adopté des politiques d'imprimer carrément de l'argent pour payer les fonctionnaires, pour payer les dépenses de l'État.
Et donc, parfois, ils ne remboursent pas leurs obligations.
Ils dévaluent leur monnaie constamment. Là. Il y a eu l'élection de Javier Milei, là, qui vient d'aller...
L'homme à la chainsaw,
qui est... Je suis pas totalement en désaccord avec sa lecture économique, mais
c'est vrai, c'est un économiste que de voir
un président de pays qui carrément se balade avec une chainsaw dans des regroupements, puis tu sais qu'il l'a fait tourner. J'ai même vu des vidéos, tu sais, les gens ils ont l'air un peu inquiets, tu sais, d'un coup qui tomberait puis qui couperait la dent de quelqu'un. Bref, il semble vouloir garder ça un petit peu sous contrôle. L'enjeu évidemment est toujours le même, c'est que pour ramener l'inflation argentine sous contrôle, il faut éventuellement stabiliser les salaires de la fonction publique, augmenter les taux d'intérêt, ce qui va avoir un impact comme on le vit au Canada, mais à tout autre échelle, augmenter les prix du logement, de la construction, etc. Donc, on connaît la musique, mais nous, on est passé de 8 à 3. Eux, ils doivent passer de 276 à 3. Fait que le remède de cheval va devoir être vraiment plus important.
On peut bien se balader avec une chaîne, ça. Regardons les pays, en fait, industrialisés. On va commencer à taper dans le navigateur, le Canada. Tiens, on va regarder la position. Ça a l'air de quoi, donc, l'évolution de notre inflation, là?
Le Canada, comme on le sait, puis un peu suit la trajectoire américaine. Donc, il y a eu une période pendant la pandémie de relative stabilité, là, parce qu'évidemment, nos préférences ont énormément changé. Fait qu'on a pu un transfert de demande vers d'autres biens. Puis la tarification n'était pas tout à fait facile à déterminer. Mm-hmm. Puis j'ai juste peut-être une petite histoire, mais ma première job d'économiste, là, il y a fort longtemps, j'ai travaillé pour Statistique Canada à concevoir prendre les données du panier
l'IPC.
L'IPC, voilà, donc le panier de consommation standard. Et donc, j'allais chez les gens leur demander comment ils dépensent leur argent, ce qui est un peu particulier. Mais tout ça pour dire, la pandémie, c'était un peu une parenthèse en matière d'inflation.
Ouais.
Évidemment, au sortir de la pandémie, au croisement de la Chine qui était toujours fermée, là, donc dont les usines ne roulaient pas à pleine capacité, les différents conflits qui ont eu un impact sur le prix du pétrole, la Russie, évidemment, et puis d'autres facteurs ont évidemment fait monter l'inflation rapidement, puis les banques centrales se sont un peu retrouvées les culottes à terre. Donc là, l'action, on connaît l'histoire.
Ouais.
Par contre, si je peux prendre le Canada en particulier, on a un secteur de l'immobilier qui est assez particulier, comme tu le sais. Le prix de l'immobilier depuis 20-30 ans comme dépassé tous les autres pays industrialisés.
Ouais.
Et donc, la richesse des Canadiens est encore aujourd'hui, et plus que jamais, largement dans la brique. Ce qui n'est pas un facteur de production économique très productif, là, contrairement à la propriété intellectuelle ou des machines. C'est juste un truc là, qui est là, dans lequel on pèle énormément de nos avoirs. Plutôt que d'entreprendre, on rembourse l'hypothèque. Hein?
Ouais.
Et puis donc, l'augmentation du taux directeur a fait augmenter ça encore plus. Pourquoi? Parce que le coût de financement de la propriété sur un taux fixe ou variable a beaucoup augmenté. Puis les coûts de construction pour les gens dans le domaine du développement immobilier également sont accrus. Aujourd'hui, l'inflation au Canada, à mon avis, est relativement sous contrôle si on exclut le logement. Ouais. Mais le logement, c'est, selon nos scénarios,
c'est
20-30% de nos dépenses.
Le paiement mensuel, quand c'est du loyer, il y a des augmentations avec les nouvelles constructions. C'est possible de le faire pendant un certain nombre d'années pour les propriétaires. Mais en ce qui concerne les hypothèques, bien, c'est là qu'il y a un gros versement d'intérêt.
Exact.
Qui alimente l'inflation?
Directement. Puis c'est là où il y a comme un espèce de phénomène là, d'autodétermination où l'action de la Banque du Canada a fait augmenter le prix de l'immobilier, ce qui fait augmenter l'inflation, ce qui fait qu'on tarde à baisser le taux directeur. Et donc, il y a cette espèce de roue qui tourne actuellement au Canada. Et comme une tellement grosse partie de nos avoirs individuel et collectif est là-dedans, forcément, l'impact est beaucoup plus grand qu'il le serait dans d'autres pays. Aux États-Unis, chose à savoir notamment, mais il est possible d'obtenir un prêt hypothécaire sur 30 ans avec le même taux pendant toute la période.
Toute la période.
Donc, ce qu'on voit actuellement aux États-Unis, c'est des gens qui simplement restent à la maison. Ils n'achètent et ne vendent plus, en tout cas beaucoup moins.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un taux à 2 % puis contrairement à nous, où on doit renouveler éventuellement aux 4 ou 5 ans, eux, ils peuvent rider ça pendant une longue
période. Mais ils ne semblent pas avoir de pénurie d'immeubles, de logements comme on a chez nous.
Aux États-Unis, il faut dire que l'aspect immigration est une partie de l'explication au Canada, puis on a accepté pendant la période post-pandémique une grande quantité de nouveaux arrivants, puis c'est pas par rapport aux États-Unis, en nombre absolu, c'est peu, mais par rapport à notre population, on a accueilli plus d'un million de personnes sur une population de 40.
Mm-hmm.
C'est sûr que ça met des gens qui sont à la recherche de logement. On était déjà dans une situation de pénurie, donc évidemment, tout ça se cumule là, pour produire la situation qu'on vit actuellement.
Dans les pays industrialisés, zone euro, Canada, États-Unis, c'est très semblable. 9-10, ça atteint, ça a culminé à l'été 2022. Ensuite, ça redescend autour de 3, 2,8, 2,9 pour le Canada. Mais la Suisse, qui n'est pas dans la zone euro, mais qui est quand même limitrophe, ben là, il y a quelque chose de bizarre, c'est que l'inflation n'a pas vraiment surgi. Et puis là, on se retrouve avec des taux de 1,2, 1,3.
Ils n'ont pas monté au-dessus de 2,5, je pense, le taux directeur en Suisse.
Comment
donc, c'est vraiment bien pour les Suisses, on va dire ça comme ça. Encore une fois, c'est un tout petit pays avec un secteur financier très, très fort. Donc, une grosse demande pour la monnaie. Et ils ont pas l'euro. Donc, ultimement, ils ont leur propre monnaie donc, qui est très forte. Donc, ça, c'est un facteur important. La Suisse, c'est un pays bizarre. J'ai habité là pendant quelques mois, pendant mes études. Ils ont un contrôle des prix. Là,
Mais comment ils peuvent contrôler?
Par exemple, sur l'énergie, là, je pense que c'est 76% de leur énergie est fabriquée localement, nucléaire, hydroélectricité, éolien.
Ah, oui, quand même.
Ils importent 30% pour les voitures là, d'essence. Là, mais c'est que du renouvelable, que détenu par l'État. Donc, sur l'énergie, qui a été un facteur important chez nous, ils accueillent très peu ou pas d'immigrants. C'est très dur de se naturaliser suisse, pour le meilleur et pour le pire.
Le Japon. Hein.
Exact. Mais donc, ce qui fait que la pression sur le domaine de l'univers immobilier n'a rien à voir avec la nôtre. Par exemple, ils construisent à peu près au même rythme qu'ils accueillent des gens, c'est-à-dire très lentement.
Ouais.
Puis après, les gouvernements sont forts, les cantons sont forts. C'est une démocratie hautement participative, la Suisse.
Ah oui, oui, les référendums, c'est presque
ce qui fait qu'on peut contrôler le prix de la bière, le prix de la viande, etc. Puis il y a un côté paradoxalement ultra-capitaliste en Suisse et un côté ultra-socialiste qui se côtoie puis qui cohabite. Puis ça te permet justement de garder des taux d'inflation là, dans les 2 %.
Ah, c'est un grand mystère pour moi.
Avant la pandémie, puis tu sais, il était à 0 % d'inflation. Il n'y avait pas d'inflation en Suisse, ce qui est quand même assez surprenant. Là,
ben oui, il y a quelque chose, je crois, des leçons à tirer de ce modèle-là. Mais d'autres, on peut regarder par exemple la Chine, et là, c'est tout autre portrait, notamment la déflation.
Oui.
Et qui aurait pu prédire il y a quelque temps qu'après l'inflation, on s'en irait dans cette direction?
Oui, c'est sûr que la Chine, évidemment, l'économie est hautement centralisée avec un gouvernement fort, mais qui est très, très impliqué dans l'économie. Ça donne ce que ça donne. Peut-être que je ne suis pas ici en train de faire un statement idéologique, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il ne laisse pas suffisamment les prix s'établir dans l'économie. Donc, il l'indique jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et donc, par exemple, la faillite d'Evergrande, là, cette espèce de méga société immobilière là, qui avait 300 milliards de dollars de dette, ben, ça fait évidemment que ça a duré beaucoup plus longtemps que si on avait laissé un marché libre.
C'est pas la seule. Hein,
non, puis ça, c'est l'étoile du Nord, là, si tu veux, de l'effondrement, mais il y en a plusieurs autres. Les jeunes Chinois travaillent peu, donc ils n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, donc leur capacité à payer cher pour des biens, à contribuer à l'économie est assez faible. Puis on en parlait, toi et moi, là, mais tu sais, il y a le volet véhicule qui est assez particulier. Les Chinois, on sait, c'était la manufacture du monde, là, c'était le cheap labor, c'était des gugus en plastique, mais aujourd'hui, ils fabriquent des voitures électriques notamment. Ils ont dépassé Tesla dans le nombre, en valeur absolue de véhicules qu'ils fabriquent. Et j'ai écouté une balado récemment. Monsieur Musk a ouvert une usine en Chine et ça a presque sauvé Tesla. Hein. À un moment donné, ça allait pas très bien. Et là, en un an, ils ont fabriqué une usine. Ils ont sont mis à livrer des voitures. Et évidemment, les entreprises chinoises, BYD, NIO, etc., ont volé les bons ingénieurs, les bons directeurs de production. Et aujourd'hui, c'est avec ces gens-là qui réussissent à fabriquer des voitures électriques quand même bon. C'est pas Tesla, mais à 20 000 $ là, tu sais, ça
mais pas, avec une autonomie supérieure à celle de Tesla.
Ben, c'est ça. Donc, tu sais, là, M. Musk, qui a un an et demi, deux ans, riait de ces gens-là en disant, as-tu vu leur voiture? C'est des poubelles. Aujourd'hui, il carrément demande que les États-Unis mettent en place des barrières tarifaires pour éviter qu'il y ait cette espèce de
rentrée. Dans le tableau, on a la déflation et puis l'indice des prix de l'automobile en Chine. Ouais. Ça, c'est du mois de mars, c'est tout récent. On a donc un retour à 22 ans en arrière.
Oui, mais c'est parce que, tu sais, on dit automobile, mais ultimement, pour moi, c'est comme, c'est sûr que ça reste quatre roues, là, puis de l'autopropulsion, mais tu sais, c'est comme un autre bien carrément. Tu sais, ouais. Évidemment, la Chine contrôle essentiellement presque toute la chaîne de valeur dans le lithium. Ils ont le plus grand fabricant de batteries au monde. Et comme on a dit, là, ils ont pigé à Tesla les meilleures techniques, les meilleurs cerveaux.
Niveau pétrole, ils ont des ressources directement en Afrique.
Ça permet, donc, on revient en arrière, mais essentiellement, une voiture qu'on vend aujourd'hui en Chine n'a rien à voir avec la voiture qu'on vendait en Chine il y a 20 ans. Là, c'est un tout autre bien qui est intégré de manière totalement différente en termes de chaîne de valeur. Puis ça permet, comme je dis, de vendre. Petit bémol, par contre, le BYD perd des milliards de dollars, là, comme Tesla l'a fait, mais on ne voit pas la fin de cette espèce de déficit. Donc oui, c'est en train de s'installer comme gros joueur à des prix dérisoires, mais est-ce que c'est soutenable? C'est la question que
plusieurs... Entre la déflation et l'inflation, lequel choisirais-tu comme moindre balle?
Ben, c'est sûr qu'on veut toujours une petite inflation. Hein. C'est le site de la Banque du Canada, de la Fed, de pas mal toutes les grandes banques. On veut une courte inflation pour un peu donner une dynamique à l'économie. Ce que vit les Chinois, la Chine, ce que les Chinois, je pense que c'est pas idéal. Par contre, si on met notre petite casquette égoïste, la déflation qu'ils vivent, c'est une baisse des prix des biens à la consommation, mais éventuellement, ils vont l'exporter, cette déflation-là, parce que les biens sont... Ben oui, donc ça pourrait éventuellement avoir un impact positif sur l'Amérique du Nord si les biens qu'on achète en Chine se vendent à des prix inférieurs de ce qu'ils vendaient il y a un an. Mm-hmm. Ça pourrait mettre une pression à la baisse sur les prix.
Mais en autant que ça ne dure pas trop longtemps, parce que la déflation peut aussi être rébarbative pour le consommateur qui se dit, ben, le mois prochain, ça va être encore moins cher.
Exactement. Puis évidemment, tu connais l'exemple japonais là, qui ont vécu presque 20 ans là, de non-inflation, voire déflation. Puis même tous les stimuli là, de la banque centrale du Japon n'arrivaient pas à relancer l'économie. La dernière chose qu'on veut mondialement, c'est une Chine qui est stagnante. Là. Je veux dire, ils ont été la locomotive de la croissance économique depuis des décennies. Mm-hmm. Je comprends qu'il y a une petite tension là, avec M. Biden et tout ça, mais on ne veut pas que ce soit un pays qui soit dans un marasme là, à perpétuité non plus.
Mais je suis curieux quand même avec les problèmes immobiliers qu'on a trouvés là-bas. Avec, je comprends que le système, l'organisation de l'économie est complètement différente de ce qu'on voit dans le monde occidental. Mais les ennuis immobiliers, est-ce que ça pourrait s'exporter puis se retrouver ailleurs?
Je ne connais pas la structure de capital de groupes comme Evergrande, etc. Puis je pense qu'éventuellement, si ça devait se traduire par des pertes significatives pour les gens qui ont investi dans ces entreprises-là, il y a beaucoup de sociétés étrangères. C'est souvent des entreprises qui ont déjà un portefeuille immobilier en partie aux États-Unis, en partie en Europe. Bien, c'est sûr que s'ils devaient faire une grosse perte via ces projets-là, puis comme je dis, Evergrande, c'est comme la pointe émergée de l'iceberg, bien, ils pourraient être beaucoup plus protecteurs et peut-être rappeler des prêts ou être un petit peu moins expansifs dans d'autres pays où ils ont des produits d'investissement en immobilier. Puis ça, effectivement, ça pourrait avoir un effet de ricochet sur nous. Après, il faudra voir si les gouvernements, notamment au Canada, semblent vouloir jouer la carte de l'interventionnisme là, dans cet univers-là. Donc, les choses vont s'équilibrer, je pense, mais c'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle pour personne. Je rigole, mais ultimement, je n'ai pas envie que la Chine s'effondre et que ces entreprises aillent à ce point-là mal.
D'un point de vue macro, est-ce que les choses se sont améliorées si on compare, par exemple, à 2023 et 2022, puis dans les prochains mois ou même 2025, est-ce que tu vois une amélioration globale des conditions économiques Canada, États-Unis, Europe?
L'inflation est, comme je disais, sous contrôle. Puis pour moi, comme économiste, puis je pense pour beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui font des placements, tu sais, la stabilité, c'est quand même fun. Tu sais, puis je pense qu'on est dans une ère, même si l'inflation est un peu plus haute qu'on la voudrait, même s'il y a encore le conflit en Ukraine, même s'il y a le conflit palestinien, ça ne change pas, si je peux dire ça comme ça. C'est malencontreux, là, puis je veux pas sonner vraiment, ça sonne un peu terrible, mais le choc qu'on a eu quand la Russie a envahi l'Ukraine, on n'aura pas ce choc-là à nouveau. Les prix des fertilisants, les prix des céréales ukrainiennes sont élevés. Donc, il n'y a pas d'imprévisibilité là-dessus. Ça fait 2-3 ans que ça dure. Sur plein d'autres biens, évidemment, on parlait des voitures, il y a une tendance, là, une pression à la baisse. C'est une bonne nouvelle également. La seule chose qui est pour moi impondérable, c'est la dimension humaine. Là. Est-ce que les hommes et femmes politiques vont jouer ensemble ou est-ce qu'ils vont continuer à se lancer des bombes puis à se lancer des espèces de tarifs? Puis ça, c'est vraiment la dimension comme économiste, je contrôle pas, mais tu comprends que c'est des décisions politiques qui sont liées souvent à l'électorat et non pas à une forme de raisonnement économique là-dessus, mais je suis plutôt optimiste. Là. Encore une fois, on est arrivé dans une ère plus de stabilité, puis je pense que le Canada va vivre une année un peu stagnante, mais éventuellement, ça va se restabiliser. On a une économie forte. Donc,
Et aux États-Unis, ben, les élections à l'automne, historiquement, au niveau économie, est-ce que les républicains ou les démocrates ont un profil semblable?
Il y a eu plein d'inversions. Puis j'écoute beaucoup de politique américaine. Il y a eu beaucoup d'inversions sur plusieurs sujets sociaux, plusieurs sujets économiques, sur l'ouverture ou la fermeture au commerce mondial, etc. Donc, c'est très difficile de dire quel gouvernement on va avoir. Là, M. Trump, c'est une quantité connue, là, comme on dit, mais en même temps, il peut... Ça, je réitère pour moi, comme économiste, la prévisibilité, c'est clé. M. Trump, c'est un facteur de forte imprévisibilité. Donc, à la limite, il pourrait décider qu'il s'amourache de Xi Jinping puis qu'il rouvre les vannes avec la Chine ou complètement à l'inverse. Puis ça va être comme décider sur un roulement de dés, j'ai l'impression. Donc, là-dessus, c'est sûr que l'élection américaine, elle va avoir un impact. Je pense que M. Trump a quand même beaucoup appris de son dernier passage à la présidence. Je pense qu'il est entouré différemment, pour le meilleur et pour le pire. Mais j'ose croire que même s'il était élu, là, on aurait droit à des politiques au moins un petit peu plus.
Ouais.
Cohérente. Là,
encore faut-il qu'il soit élu.
Oui, oui, je dis ça. Pour moi, c'est comme le scénario du pire. Je veux pas faire. Voilà.
C'est bon. Merci beaucoup, Francis Gosselin, économiste.
Notre question du beau-frère provient de Charles de Lavaltrie. Mon beau-frère a déjà fait faillite et maintenant il est en mission contre les dettes. Il tente de nous faire la leçon sur toutes les sortes de prêts qui sont, selon lui, tous nocifs. Existe-t-il de bonnes dettes? Ben, d'évidence, sa faillite a créé chez lui un traumatisme et des réactions normales comme un alcoolique qui s'est débarrassé de sa dépendance. Ben oui, on peut boire modérément, mais l'alcoolique n'est pas prêt à se tremper les lèvres sans succomber à la tentation de la bouteille. Alors oui, le crédit, c'est fort utile, ça peut être dommageable, bien sûr, mais voici des exemples où le crédit peut être bien domestiqué et fort utile dans sa planification financière personnelle. Utiliser le crédit de manière intelligente, c'est essentiel, comme un prêt hypothécaire pour acheter une propriété, ça c'est l'exemple le plus classique, et une bonne gestion avec la valeur de l'immobilier, on sait que ça peut augmenter, ça compense les intérêts payés sur le prêt à long terme, et évidemment plus la mise de fonds est élevée, mieux ce sera. Investir dans l'éducation, que ce soit la vôtre ou celle des enfants, peut significativement augmenter le potentiel de revenus futurs. On peut utiliser dans ce cas des prêts étudiants avec des crédits fiscaux et ça aide à payer des frais de scolarité et autres dépenses éducatives qui peut être une décision judicieuse. Surtout si ça se produit avec de meilleures opportunités professionnelles et un salaire plus élevé, là. Utiliser un prêt personnel ou une ligne de crédit à un taux d'intérêt inférieur pour consolider plusieurs dettes de cartes de crédit à taux élevé, ça réduit le montant des paiements d'intérêt et ça simplifie la gestion financière et ça enlève beaucoup de stress. Utiliser des cartes de crédit qui offrent des récompenses, des remises en argent, des protections pour les achats, ça peut être très avantageux si vous payez le solde en entier chaque mois. Ça permet non seulement d'éviter les frais d'intérêt, mais aussi de profiter de garanties supplémentaires sur les achats, comme les assurances sur les locations de voitures, les assurances voyage. C'est parfois beaucoup moins coûteux que d'utiliser sa carte de guichet. Et chacune des stratégies que je viens de nommer, lorsqu'elles sont utilisées prudemment, peuvent contribuer à une meilleure santé financière. Donc, le crédit, ce n'est pas que mauvais. C'est ici que se termine cette édition. Merci à nos invités, le planificateur financier Antoine Chaume et l'économiste Francis Gosselin. Ici Fabien Major. À bientôt.